Vous avez remarqué la question des disciples au début de l'évangile, lorsqu'ils ont vu cet aveugle né sur le chemin en train de mendier. Leur question n'a pas été « Seigneur, est-ce que tu ne peux pas le guérir comme tu en as guéri d'autres ?» Leur question a été « Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» C'est assez intéressant comme démarche parce que c'est une démarche qui est comme fascinée par le péché, le mal qui a eu lieu, et de chercher la cause, de chercher le coupable. Non pas tant d'essayer de chercher une issue, mais de chercher le coupable. Cette disposition est une disposition qui est assez marquante et, j'allais dire, aussi une disposition que nous pouvons aussi avoir dans notre cœur, qui est souvent une réaction que nous avons lorsque nous nous sentons impuissants. Lorsque nous nous sentons impuissants face à une situation, nous cherchons un coupable. Voilà, c'est à cause de lui. Et au lieu d'essayer de remédier à la situation, on va surtout chercher à faire porter le blâme. C'était une des questions phares dans l'ancienne Union soviétique. Je me permets quelques souvenirs, non pas parce que j'ai vécu en Union soviétique, mais parce que j'ai vécu en Russie avant d'entrer au séminaire. Et on me rapportait justement que l'une des questions phares de cette époque-là, c'était de savoir qui est coupable. Non pas ce qu'il faut faire ou comment le faire, mais qui est coupable. Et voilà que Jésus, si vous avez observé ce qu'il dit, Jésus dit « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir ». Je suis venu porter un jugement. Vous voyez, ce jugement, ce n'est pas une condamnation. Il y a un jugement, c'est-à-dire qu'il y a, une capacité à voir la vérité que ceux qui ne voient pas. Je me rends compte que je ne vois pas. Seigneur, je reconnais que je ne vois pas. Je reconnais que j'ai eu des aveuglements. Peut-être que j'ai mis tout mon cœur dans cet aveuglement. Mais le Seigneur dit, voilà, que je pointe ceux qui ne voient pas, mais pour leur rendre la vue. Il apparaît justement comme celui qui permet de rencontrer l'aveuglement, mais il est celui aussi qui a la puissance d'en délivrer. Et vous voyez, c'est ce qu'il a fait comme signe avec l'aveugle-né, qui était la souffrance, on va dire, d'une maladie physique. Il fait quelque chose, on pourrait dire, qui, à vue humaine, n'a pas de sens, il va lui mettre de la boue sur les yeux. On va dire, non mais c'est quoi ce truc? Déjà, il ne voit pas, on lui remet une couche, ça ne va pas aider, normalement. Ah oui, sauf qu'on se souvient que c'est avec la glaise du sol que Dieu avait créé le monde, que Dieu avait créé l'homme, avait façonné l'homme. Et Jésus manifeste un acte de création de Dieu, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et à cet homme qui ne pouvait pas voir, qui ne pouvait plus voir, et là qui n'avait même jamais vu, il va rendre la vie. Il a la puissance de rendre la vue à cet homme. Il n'est pas simplement venu poser un blâme, il est venu offrir un chemin. Et nous avons ici, du coup, une œuvre de miséricorde de la part du Seigneur. Et c'est la révélation, justement, de la miséricorde en œuvre, la miséricorde en marche du Seigneur notre Dieu. C'est la présence de la miséricorde qui, d'ailleurs, nous permet d'affronter la vérité. D'affronter la vérité. Parce que la miséricorde est là, nous pouvons affronter la vérité des faits. Vous avez déjà vu cette réaction parfois des petits-enfants, là, qui sont allés dérober une confiture en haut de l'armoire, on leur avait dit « tu ne peux pas en manger ». Il a la main dans le pot, il a encore de la confiture sur les lèvres, et il dit « c'est pas moi ». Cette main, elle appartient pas à quelqu'un d'autre. « Non, c'est pas moi, j'ai rien fait ». On dit « mais c'est... » C'est évident qu'il l'a fait, mais pourquoi est-ce qu'il nie ? Pourquoi est-ce qu'il nie ? Parce que on a une peur dans notre cœur. Mais si on me désigne comme le coupable, on va me dire mais je peux plus t'aimer, il n'y a plus de place pour toi, va-t'en, ou tu mérites même plus de vivre, tu mérites plus d'être parmi nous. Et donc on est paniqué par la vérité. Il faut surtout qu'on ne la découvre pas, qu'on ne la voit pas. Et ce comportement, c'est un comportement qui naît à la chute. Si vous allez regarder Genèse 3, c'est ce qui arrive à Adam dans le jardin, après le péché. Il entend le pas de Dieu, ce pas qui lui était familier, de ce Dieu qui lui avait donné la vie, qui lui avait béni, qui lui avait donné le monde pour exercer sa créativité, s'en nourrir et s'en réjouir. Et désormais, il entend le pas de Dieu et il a peur. Dieu l'interroge, « Qu'as-tu fait là ?» Il lui donne la possibilité de dire, « C'est vrai, j'ai mangé, j'ai désobéi, pardon. » Mais l'homme, non seulement se planque, mais ensuite, quand on l'interroge, il va dire, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit, et j'ai mangé. » Mais de demande de pardon, il n'y en avait pas. Voilà à quoi ressemble un monde qui n'a pas reçu la miséricorde. Il a peur de la vérité. Il a peur de la vérité parce qu'il lui semble que affronter les faits tels qu'ils sont va conduire à sa mort. Et il veut vivre. Alors bien sûr, il nie. Il ne faut pas voir, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que c'est grave, il ne faut pas dire qu'il y a du poids, il ne faut pas dire qu'il y a des conséquences. L'œuvre de miséricorde du Seigneur, c'est une œuvre de libération parce qu'elle nous permet d'affronter les faits, mais elle nous permet d'affronter les faits pas parce qu'on nous jetterait les faits à la face. Il y a des gens qui se servent, entre guillemets, de la vérité ou de ce qu'ils imaginent la vérité comme d'un gourdin pour nous taper sur la tête. La vérité, ce sont les faits plus la présence de Jésus. La présence de Jésus qui peut dire « Je te pardonne ». La présence de Jésus qui peut dire « Je te donne un avenir ». Et le drame, justement, c'est de demeurer dans cette peur, comme Jésus le dit à la fin, à ceux qui l'interrogent, « Mais serions-nous aveugles, nous aussi ?» Le problème, c'est que vous dites « Nous voyons ». Le problème, c'est que vous ne voulez pas reconnaître votre aveuglement. Alors votre péché demeure. Et vous voyez, dans la vie de Jésus, on voit qu'il vient permettre d'affronter la réalité des faits parce qu'il ouvre un passage. J'allais dire, regardez, on a une croix qui nous est représentée. Vous avez encore là un grand crucifix dans la chapelle du Calvaire. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous présente la croix de Jésus ? Parce que dans cet épisode de la croix de Jésus, justement, sa miséricorde nous est manifestée, la vérité nous est manifestée avec sa miséricorde. Oui, Jésus sur la croix, c'est vrai, d'un côté, c'est aussi, voyez ce que le mal fait, voyez ce que le péché fait. Il me condamne à mort, il me met à mort. Mais la présence de Jésus sur la croix, ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas simplement pour révéler la gravité du mal. La présence de Jésus sur la croix, c'est aussi pour être aux côtés, vous vous souvenez dans la crucifixion, à côté de lui, il y a un crucifié à gauche, un crucifié à droite. Il y en a l'un des deux qui l'insulte, et puis il y a l'autre qui dit autre chose. Après ce que nous avons fait, parce que c'était un brigand, c'était un meurtrier, un émeutier, il dit « Notre sort est juste ». Oui, il reconnaît les faits, il reconnaît comment il s'est comporté, il reconnaît que peut-être il a mis tout son cœur. Mais il a encore ce désir de vie en lui et il interroge Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et il peut le faire parce que Jésus est là, parce que Jésus est à côté de lui. Et Jésus lui répond « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus lui donne un avenir. Jésus lui donne un avenir. Non, il ne dit pas que c'était pas grave ce qu'il avait fait, mais justement parce qu'il le reconnaît et qu'il s'ouvre à lui dans son désir de vie, Jésus peut lui donner un avenir. La miséricorde de Dieu nous permet d'affronter la réalité des faits parce que Jésus, par sa puissance, est capable de nous donner un avenir. Voyez ce trésor de la miséricorde que nous avons, nous les chrétiens. Ce trésor, nous avons à le partager au monde, parce que nous vivons dans un monde qui ne connaît pas la miséricorde. Nous vivons dans un monde qui ne connaît pas la miséricorde. Comment cela ? Nous en avons eu encore un exemple dans les 10 derniers jours, avec le vote dans notre Parlement de l'introduction de l'avortement dans la Constitution française, et qui se présente comme un acte de bonté, en disant « Mais des femmes qui ont avorté leur enfant, elles étaient dans une situation de détresse, mais on ne va pas tirer en plus sur l'ambulance. » Alors il y a quelque chose, il y a une part d'intuition qui est juste en disant « C'est vrai, personne ne met fin à la vie de l'enfant qu'on porte dans son ventre pour un oui ou pour un non. » Il y a une situation de détresse dans la quasi-totalité des cas. De vraie détresse, on n'a pas su quoi faire d'autre. On était seul, on avait peur, on n'en voyait pas d'autre solution. Mais à ce moment-là, du coup, la solution d'un monde sans miséricorde, c'est de dire « c'était pas grave, il n'y avait rien, c'est une liberté fondamentale, c'est un droit fondamental ». Mais on empêche aux gens de pouvoir nommer la réalité qu'ils connaissent, qu'ils savent. La vie humaine, elle commence dès la cellule œuf. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat du développement de cette petite cellule œuf dans le ventre de la femme. Si je n'étais pas un être humain à ce moment-là, je ne le suis pas aujourd'hui. Mais le monde n'ayant pas de miséricorde, il faut masquer, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que c'est grave, il ne faut pas dire qu'il y avait une vie, parce que si on le disait, il faudrait condamner. On n'a pas d'autre, dans notre schéma, il n'y a pas d'autre place, il n'y a pas la place à autre chose. Alors que la miséricorde de Jésus permet de dire, je prends conscience, et j'avais peut-être même conscience, que je mettais fin à une vie. Je n'ai pas su trouver une situation, peut-être que je n'en avais pas d'aide au cours de moi, mais je reconnais qu'il y avait une vie. Et le Seigneur, le Créateur, celui qui est allé jusqu'à être crucifié justement pour le mal que nous avons fait, est capable de nous ouvrir un avenir, est capable justement de donner à la personne qui prend conscience de cela, de dire, eh bien, ce que tu reconnais, moi je peux apporter le pardon puisque tu ouvres les yeux dessus. Et je peux même te donner un avenir. Comment cela ? Parce qu'on aurait pu imaginer, voilà l'acte de maternité que je devais faire, et on pourrait dire de paternité aussi, parce qu'un enfant est conçu entre un homme et une femme, jamais tout seul. Et Dieu donne la possibilité de dire, puisque je reconnais qu'il y a une vie, Seigneur, je te confie cette vie, fais-la entrer dans la vie éternelle. Fais-la entrer dans la vie éternelle. Et voilà que, alors que j'avais occulté, que j'avais renoncer à vivre quelque chose de la maternité, de la paternité, il m'est donné devant Dieu de pouvoir mystérieusement reprendre une place de père ou de mère en confiant, en faisant entrer cet enfant dans la vie éternelle, en le présentant au Seigneur. C'est l'acte du père, c'est l'acte de la mère de mettre au monde. Et il nous est donné mystérieusement de l'offrir au monde céleste. Mais si on n'a pas donné aux gens la possibilité de voir, de reconnaître la vérité des faits, dans la miséricorde de Jésus, on leur bouche ce chemin. On leur bouche ce chemin. Et voilà qu'aussi une société qui fait de l'avortement comme une liberté fondamentale, comme un droit fondamental, se désolidarise. Comment cela ? Si on dit que c'est un droit fondamental de mettre fin à la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, alors la personne qui est en détresse, la personne qui dit « je ne sais pas quoi faire, je suis tout seul, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de formation, je ne sais pas où loger », eh bien, on va lui dire « mais tu as la liberté de mettre fin à cela, c'est même remboursé, qu'est-ce que tu nous embêtes ? Qu'est-ce que tu nous embêtes ? Ce n'est plus mon problème ». Alors que si l'on reconnaît la vie dès son commencement, on se dit « mais c'est ce que nous avons de plus précieux, la vie humaine. » Et donc, si tu es dans la détresse, on ne peut pas te laisser tout seul. Ça veut dire qu'on se mobilise pour trouver un accueil, pour t'aider matériellement, pour éventuellement même s'occuper de l'éducation de cet enfant. Il y a une autre façon de voir le monde. Et l'on voit les associations qui se sont développées pour aider les mères célibataires, les femmes enceintes dans la détresse, les couples qui ne trouvent plus de solution. Il y a un choix de société pour la vie, si l'on reconnaît, si l'on ose voir la vie, et se dire « la vie humaine, c'est ce que nous avons de plus précieux ». Une société existe justement pour préserver la vie humaine. Si la vie humaine n'est plus importante, à quoi bon vivre en société ? Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur Jésus ouvre nos yeux. Que le Seigneur Jésus ouvre nos yeux qui sont parfois aveuglés. Que le Christ miséricordieux nous donne de le contempler, lui qui s'est fait proche. Il a le pouvoir d'apporter la miséricorde et le pardon, lui qui porte aussi tout le poids du mal commis, du péché du monde. Témoignons au monde de sa miséricorde pour ne pas nous laver les mains de la détresse humaine, mais ouvrir un avenir avec le Seigneur à nos frères, à nos sœurs dans la détresse. Amen.